Chers auditeurs, vidé de ses occupants, le grand séminaire n'avait pas reçu depuis 8 ans une affectation particulière. On gardait l'espoir qu'il serait rendu à ses maîtres et à sa destination première. Mais quand en novembre 1913, on apprit qu'il allait devenir une caserne des douanes, ce fut la déception et l'amertume, d'autant plus qu'à cette époque, la présence de deux de nos compatriotes au sommet du pouvoir pouvaient faire espérer que le grand séminaire serait sauvé. M. Barthou était à l'époque président du Conseil des ministres. Mgr Gieure éleva une véhémente protestation, mais dut s'incliner devant la décision du gouvernement. Après avoir rappelé que le séminaire avait été bâti en plusieurs étapes grâce au zèle des évêques de Bayonne et à la seule générosité des fidèles, il écrivait à ses diocésains « Nous disons adieu à ces vieux murs. Pendant 2 siècles, ils abritèrent les prêtres vénérables qui ont fait ce grand et beau diocèse. Ce diocèse restait chrétien grâce à eux. Ces vieux murs, témoins de tant de générosité, asile sacré de la prière et de la vertu. » Mais Mgr Gieure n'était pas homme à pleurer longtemps sur des vieux murs après leur avoir dit un adieu émouvant. Il fallait en construire de nouveaux. Et il se mit immédiatement à l'œuvre. Une ville épiscopale ne se conçoit pas sans son grand séminaire, écrivait-il à ses diocésains le 18 janvier 1914, en leur annonçant la construction d'un nouveau grand séminaire. Depuis 7 ans, les grands séminaristes étaient à Nailles, à 125 km de la ville épiscopale, très éloignés par conséquent de leur évêque, qui ne pouvait pas leur rendre visite aussi souvent qu'il l'aurait désiré. De plus, il avait constaté que plusieurs évêques français l'avaient devancé dans la construction de leur grand séminaire, et cela n'avait fait que grandir son regret de temporiser dans l'espoir d'une restitution prochaine de l'ancien bâtiment. 4 ans auparavant, à Rome, Pidis, à qui il décrivait la situation, l'avait pressé de ramener les élèves du grand séminaire dans la cité épiscopale. À la visite qu'il lui avait faite en 1912, le pape avait insisté et lui avait dit « Puisque votre diocèse est chrétien, n'attendez pas plus longtemps. On viendra à votre secours. Agissez sans donc tarder. » Facito. Tout espoir de récupérer l'ancien séminaire étant perdu, il ne lui restait plus qu'à en construire un nouveau et il confiait l'entreprise à la générosité de ses diocésains. Comme Mgr Gieure aimait relever et même lancer des défis, il décida que ce bâtiment s'élèverait à quelques centaines de mètres de l'ancien et face à lui sur le plateau de Marac. Il avait à sa disposition le domaine de Sainte-Croix, acquis en même temps que celui de l'Argentée, mais il avait cédé ce dernier aux Ursulines. La première pierre fut posée et bénite le 2 mars 1914, le jour où l'église de Bayonne célébrait la fête de Saint Léon, son premier évêque. La cérémonie eut lieu sans bruit, sans éclat, pour ainsi dire dans une stricte intimité. Il y avait là cependant, avec les autorités diocésaines, les chanoines du chapitre et tout le clergé de la ville. Des laïcs entouraient l'évêque, 3 notables bayonnais qui étaient le conseil de l'évêché pour les affaires de jurisprudence et la sauvegarde des intérêts diocésains, M. Guichenet, député, M. Laxag et Iturbide, avocat. Étaient également présents l'architecte, M. Saint-Vannes, et le chef de chantier, M. Sossès. Le chroniqueur du bulletin religieux écrivait le 8 mars suivant « Le chantier est déjà aujourd'hui en pleine activité. Les travaux seront rondement menés, toutes les adjudications étant terminées et chaque entrepreneur étant parfaitement outillé. » Mgr Gieure voulut reproduire à Bayonne l'architecture du grand séminaire d'Aire dont il avait été le supérieur et il se montra sur ce point intransigeant. La guerre qui éclata en août vint ralentir les travaux. Et ce n'est que le 1er mai 1919 que l'imposante bâtisse, qui pouvait accueillir 250 séminaristes, ouvrit ses portes. Dès le mois de décembre, les séminaristes étaient au nombre de 140, alors qu'un certain nombre d'entre eux étaient encore sous les drapeaux. Les travaux furent terminés par la pose des vitraux de la chapelle en 1921 et par la mise en place des stalles après le congrès eucharistique de 1929. En 1907, le petit séminaire d'Oloron avait trouvé un logement au collège de Nailles. Il s'y installera définitivement. Les élèves du petit séminaire de la Ressort avaient été accueillis dans les locaux du monastère de Belloc, abandonné par les bénédictins partis en Espagne, mais que le père Cayava avait pu récupérer parce qu'il avait un droit sur eux. Après la guerre, le contexte politique étant devenu plus favorable aux religieux qui avaient héroïquement servi la France, les moines avaient formé le dessein de revenir à Belloc, et comme leur désir de récupérer les bâtiments conventuels se faisait de plus en plus pressant, il fallut chercher une autre solution. Seule la construction d'un nouveau petit séminaire pouvait résoudre le problème. Monseigneur Gieur en fit part à ses diocésains dans une lettre pastorale du 15 octobre 1923. On envisagea un moment de transformer en maison d'éducation les bâtiments de la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, abandonnés par l'armée. Certaines personnalités locales, comme M. Barnegaray, député du lieu, abondèrent dans ce sens et défendirent ardemment le projet. Des plans furent même établis à cet effet, mais on s'éloignait beaucoup trop de l'ancien petit séminaire et l'âme de la Ressort n'aurait pas survécu à un tel dépaysement. Un terrain situé à Ustaritz, à la limite de la Ressort, et que M. Lissard d'Asparin offrait gracieusement au diocèse, retint l'attention de Mgr Gieur. C'est là qu'il décida de bâtir le nouveau petit séminaire. Il le voulut dominant la vallée de la Nive et visible de loin, malgré les gros travaux de terrassement qu'entraînait ce choix. Les fidèles qui venaient de procurer un grand séminaire à l'église de Bayonne furent à nouveau sollicités et ne sachant rien refuser à leur évêque, ils répondirent avec une égale générosité à son nouvel appel. Deux souscriptions furent ainsi ouvertes dans le diocèse et les paroisses les plus méritantes étaient inscrites sur un tableau d'honneur que publiait le bulletin religieux. Les Basques émigrés en Amérique sont également sollicités. L'abbé Blasi, curé d'Ustaritz, et l'abbé Elissalde, curé de Gréciette, iront à leur rencontre à Mexico, Buenos Aires et Santiago du Chili. Et ils rapporteront de là-bas le témoignage concret de la fidélité de ces Américains, partis souvent depuis fort longtemps, et de leur attachement à leur patrie et à l'Église. On enregistrera également un nombre important de dons invituels, correspondant parfois à l'obol de la veuve. L'inauguration eut lieu le 26 septembre 1926 au cours d'une cérémonie grandiose à laquelle assistaient de nombreuses personnalités et près de 500 anciens élèves de la Ressort et de Belloc. Dans le discours qu'il prononça avant de procéder à la bénédiction des locaux, Mgr Gieur rappela avec des accents à la fois vengeurs et triomphants les difficultés que l'Église venait de connaître. « 100 fois, s'écria-t-il, les persécuteurs ont entonné le chant de la victoire sur le Christ. L'Église les regarde, les attend. Voilà 20 siècles qu'ils prononcent sans arrêt son arrêt de mort. L'Église silencieuse les prend tour à tour chacun, les couche dans la tombe et le pied sur leurs cendres, elle continue impassible, invincible, sa course à travers le temps, agrandissant son empire » qui ne connut jamais autant de provinces et autant de sujets. En même temps, il rappelait que le mérite de cette construction revenait au peuple basque. « Un peuple petit par le nombre, disait-il, grand par sa foi et sa fierté, a tenté cette folie, car il ne se résignait pas à l'affront fait à ses croyances et à sa liberté. Il a donc réuni ses économies, et déjà en 2 ans, il a porté à son évêque tout près de 2,5 millions. Il a fait surgir de terre ce monument qui dira au siècle futur la foi intrépide, la générosité magnifique des Basques. Après le repas, dans le toast qu'il porta au nom du Pays basque, M. Barnegaray retourna à Mgr Gieur les éloges et les compliments que celui-ci avait adressés le matin au peuple basque. La fête de ce jour-là était celle de Mgr Gieur. Citation. Oui, Monseigneur, vous êtes l'évêque des Basques, et c'est parce que vous êtes l'évêque des Basques qu'aujourd'hui, dans ce haut lieu de la terre basque, c'est avant tout votre fête que nous célébrons. Si cette maison est debout, si elle existe, elle le doit avant tout à votre tranquille, mais à votre indomptable volonté. Et le député basque ajoutait, en forme d'amende honorable, ce matin, quand je passais pour venir ici, devant la citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port, je l'ai regardé, enfermé dans ces vieux remparts solitaires et silencieux. Mais il me plaît de vous dire à cette minute que sur elle, aucune ombre ne planait, pas même celle du regret.